France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Faut-il être beau, belle pour réussir? Pourquoi nos sociétés sont-elles si indulgentes avec les personnes dotées d'une grande beauté physique? Comme le disait Jean Cocteau, les privilèges de la beauté sont immenses, elle agit même sur ceux qui ne la constatent pas. Nous vivons plus que jamais dans le culte de la beauté physique, un atout majeur pour réussir dans sa vie personnelle et professionnelle, selon de nombreuses études, un culte qui peut conduire à des discriminations et des rejets à l'encontre de celles et ceux qui ne correspondent pas vraiment au canon de beauté en vigueur. Un culte qui peut conduire à trop d'indulgence, comme dans l'affaire Luigi Mangione, ce beau gosse musclé de 26 ans accusé du meurtre du patron d'une compagnie d'assurance à New York le 4 décembre dernier. Luigi Mangione aurait-il bénéficié d'une telle mansuétude du public et des réseaux sociaux s'il avait été moche? Et vous, la beauté a-t-elle été un atout, un handicap dans votre vie? Avez-vous souffert de ne pas correspondre au canon de beauté? Standard ouvert au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebéi.
Ok Barbie, les femmes se sentent super mal dans leur peau depuis que t'as été inventée.
Je pense que c'est une mauvaise interprétation.
Tu représentes tout ce qui est moche dans notre culture. La sexualité aux mains du capitalisme, des standards de beauté irréalistes.
Non, c'est ce que tu penses, mais c'est une vision stéréotypée, parce que Barbie est bien plus que tout ça.
Est-ce que tu t'es vue?
Oui, alors c'est-à-dire que moi je suis Barbie stéréotypée.
T'as fait reculer le mouvement féministe de 50 ans. T'as détruit le sens des valeurs féminines et tu bousilles la planète en glorifiant le consumérisme effréné.
Non, mon rôle est de vous aider à devenir des femmes plus épanouies et plus puissantes.
Oh mais je suis puissante. Et jusqu'à ce que tu débarques en te la jouant Barbie, t'étais complètement sortie de ma tête, fasciste.
Extrait du film Barbie de Greta Gerwig en 2023. Bonjour Jean-François Madieu.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Paris Panthéon-Sorbonne et directeur de l'Observatoire des discriminations. Et vous avez publié en poche chez Odile Jacob La Société du Paraître, sous-titré Les Beaux, les Jeunes et les Autres. Et on vous doit un ouvrage majeur sur le sujet de la beauté, Le Poids des Apparences, paru en 2002 chez Odile Jacob. Bonjour Jennifer Padjemi, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous avez créé le podcast Miroir Miroir entre 2018 et 2020. Et votre dernier ouvrage, Selfie, comment le capitalisme contrôle nos corps, eh bien, est disponible en poche aux éditions Point. Bonjour, Kaline Majalani. Vous êtes psychologue clinicienne, spécialisée notamment dans la prise en charge de la dysmorphophobie. Vous avez publié chez Dunod, Traiter la dysmorphophobie. Qu'est-ce que la dysmorphophobie? En quelques mots, on y reviendra ce matin largement.
Bonjour Ali. Alors la dysmorphophobie, c'est une fixation comme un effet loupe sur des imperfections physiques et on n'arrive pas à s'en détacher et ça impacte notre vision de nous-mêmes et on a l'impression d'être déformé, d'être laid et d'avoir que des attraits négatifs.
Et c'est vrai qu'il faut s'imaginer le matin au réveil, se regarder dans la glace et à la simple vue de son image, on ressent de la honte, du désarroi et du dégoût, et à partir de ce moment-là, toute notre vie mentale est occupée par, je vous cite, un assaillant dictatorial, par une partie de votre corps qui vous apparaît comme défectueuse, menaçant votre équilibre psychologique et infiltrant tous les secteurs de la vie quotidienne. Et c'est vrai que dans une société qui vénère la beauté, on va y revenir ce matin, on peut souffrir plus fréquemment de ce trouble.
Tout à fait. Ce trouble est encore plus moderne que jamais. J'ai envie de dire, ces variants aussi sont peut-être différents de la définition initiale, mais on le retrouve de plus en plus aujourd'hui, renforcé par la société où prédomine l'image et les photos de soi.
Beau retournement de situation, Jean-François Madieu, avec Barbie, le modèle absolu de la beauté féminine occidentale pendant des décennies, qui est devenue aujourd'hui une icône féministe. Hein. C'est un beau retournement. Hein.
Oui, qui a été un peu organisé d'ailleurs par, sauf erreur, ceux qui ont conçu la
Mattel.
Poupée et qui l'ont vendu Mattel pendant des années. Effectivement, avec un film d'ailleurs plutôt réussi de ce point de vue, enfin, cette volte-face, oui. Mais qui, L'avantage aussi d'être assez réaliste et de poser la bonne question, puisque au fond, on a beaucoup accablé la poupée Barbie. D'un autre côté, les conséquences réelles constatées sur les adultes sont pas celles qu'on peut forcément imaginer. Les femmes faisant la part des choses, ce qui se passe quand elles sont toutes petites et pas forcément ce qui se passe après. Et donc, voilà, je pense que c'est pour ça que c'est pas si, forcément ce retournement est pas si mal fait que ça dans le film.
Jennifer Padjemi, que pensez-vous de ce retournement de situation autour de la poupée Barbie, icône de la beauté féminine occidentale, et qui est devenue donc une icône féministe?
Alors, je suis plutôt circonspecte sur le terme féministe pour l'associer à Barbie. Je pense que le film a été une instrumentalisation marketing qui a fonctionné. Et donc forcément, avec des discours qui vont bien, on est tous tombés dedans. Mais la Barbie de Greta Gerwig reste tout à fait dans les normes et tout à fait acceptable.
Alors au début de votre livre, Jennifer Padjemi, vous vous demandez si nous ne sommes pas tous hypocrites. Je vous cite, je suis hypocrite comme vous, j'ai fait des régimes, je me suis trouvée trop grosse, le maquillage me sert de filtre au monde, j'ai déjà brûlé mes cheveux pour qu'ils soient plus lisses, annulé un rendez-vous parce que je me trouvais moche, au fond, je sais que je suis jolie, mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire dans une société où la beauté est hiérarchisée par avance ?
Oui, je pense qu'on est tous hypocrites et qu'on est tous à la fois victimes et en même temps... on participe en fait à ce système malgré nous. Et donc c'est important de pouvoir avoir un peu de recul et de se demander pourquoi on se sent parfois troublé dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre rapport à notre image, et surtout celui qu'on renvoie aux autres, notamment à travers les réseaux sociaux aujourd'hui qui comptent beaucoup dans l'image et dans les représentations qu'on se construit. Et donc je pense que c'est important c'était important pour moi, en tout cas en écrivant ce livre, d'avoir une forme de relation de confiance avec les lecteurs en tendant une main et en expliquant qu'on était tous dedans et que c'est pas du tout quelque chose d'inédit. Parce que vraiment, quel que soit l'âge, quel que soit même parfois le genre, même si on sait que les femmes sont plus touchées, ça compte. Et puis après, il faut prendre en compte les particularités physiques, les questions raciales, les questions de corpulence, les questions aussi sociales, parce que tout ça, en fait, va faire qu'on a forcément un impact dans la manière dont on nous voit.
Jean-François Madieu, vous êtes donc le précurseur en France des études sur les incidences de la beauté physique dans la vie sociale et professionnelle. Vivons-nous dans des sociétés hypocrites ? Nous faisons semblant de ne pas tenir compte de la beauté physique dans nos interactions sociales, nos recrutements, nos jugements moraux ?
Oui, tout à fait. C'est un non-dit particulièrement fort. Tout à l'heure, d'ailleurs, vous étiez en train de mentionner la question de Mangione, qui a tué, vous savez, un patron aux États-Unis, qui est plutôt mignon. Et vous voyez, j'avais consacré un chapitre en 2002 dans Le Poids des Apparences aux décisions de justice, parce qu'on a une littérature scientifique sur ce qui se passe dans les tribunaux. Et curieusement, ça n'a suscité strictement aucun intérêt. Comme si là c'était une dimension qu'on voulait absolument ne pas voir.
Que disait cette étude ?
Que tout simplement que quand vous êtes plutôt beau, vous allez être moins puni. Et finalement, il y aura les décisions de justice sont influencées par l'apparence physique et vestimentaire. Les avocats le savent, tout le monde le sait, mais ça a des effets. Donc il y a là tout un pan. Enfin, je prends cet exemple parce qu'on sait qu'il y a des domaines où on veut pas voir. Bien entendu, si vous prenez au plan international, par exemple, la réalité de l'emploi et les discriminations dans ce domaine, par exemple à l'embauche, on s'aperçoit qu'eh ben il y a vraiment un déni. Le droit lui-même ne reconnaît pas dans l'essentiel des pays le fait que l'apparence physique, le fait d'être trop gros ou simplement votre visage ou tout ça pourrait être un critère de discrimination. Vous voyez le paradoxe, c'est pour ça que dès les années 90, je m'étais aperçu que quelque chose ne colle pas entre l'ampleur d'un phénomène et le fait qu'on ne veut pas le voir. Surtout dans le cas français. Puisqu'il faut quand même rappeler que la France est sans doute le pays où nous tenons le plus compte, pour des raisons peut-être compliquées à expliquer, en tous les cas culturelles, mais nous sommes sans doute le pays dans lequel l'apparence en général compte le plus.
Voilà. Il existe des normes sociales concernant les apparences. Est-ce que la majorité des gens sont d'accord pour qualifier un visage et un corps beau ou laid?
Oui, bien sûr. Alors comment on le sait? Parce que, tout, évidemment, on peut se dire tout le monde est beau. Et puis après tout, ça change selon les époques, selon les pays. Donc on peut se dire après tout, il n'y a pas une vérité. Qu'est-ce que c'est être beau? C'est, bon, voilà. En fait, comment on le sait? Bah, c'est assez simple. On fait des... La méthode est assez sommaire. Bah, il suffit d'interroger des échantillons de gens, ou un certain nombre de gens, pas très nombreux. Et rapidement, vous constatez qu'ils vont tomber d'accord pour considérer que tel indice de masse corporelle ou tel type de visage déclenche ce qu'on appelle l'attirance physique, le physical attractiveness, comme on dit, c'est-à-dire en fait on peut parler de beauté, si vous préférez, physique. Depuis des années, on a toujours fait comme ça. Alors maintenant, en plus, c'est assez simple parce qu'on sait reproduire, par exemple, un beau visage avec évidemment des algorithmes. On sait faire ça très bien.
Avec l'intelligence artificielle.
Oui, donc en fait, on connaît, si vous voulez, les standards pour un homme ou pour une femme, en moyenne, même dans un pays donné, qu'est-ce qu'on valorise le plus? Voilà.
Jennifer Padjemi, quel type de beauté est survalorisée dans les médias et les réseaux sociaux?
Je pense que la réponse est très claire. Ce sont des personnes blanches, minces, et qui ont une apparence saine dans l'idée qu'on prend soin de soi, qu'on mange bien, qu'on a les bons produits aussi. Et donc c'est vrai que la manière dont on va considérer une personne belle va toujours compter des caractéristiques quand même très précises que tout le monde n'a pas. Par exemple, avoir les cheveux lisses, le fait d'être mince, le fait d'être... ce qu'il faut là où il faut, donc une poitrine pas très grosse mais en même temps assez visible, des hanches qui sont pas trop visibles mais en même temps qui sont présentes. Enfin, il y a quand même plein de choses qu'on associe aux femmes belles qu'on ne peut pas associer forcément à toute la population selon justement d'où elles viennent ou le fait d'être de ne pas être blanche.
Vous êtes d'accord avec ça, Kaline Majdalani?
Alors, ce qui est intéressant, et j'écoutais tout ce que tout le monde disait, c'est de savoir que, en effet, la beauté est toujours la fille de son époque. Donc, elle traverse les âges. Alors, il y a les canons de beauté, ce qui demeure des standards exceptionnels, et à ce qu'on considère de manière générale comme étant beau. Et cela est généralement influencé par l'état d'une société, son développement économique, ses questionnements, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des normes de beauté qui sont notamment véhiculées par les réseaux sociaux, où, en effet, on retrouve un modèle presque unique de beauté. On parle du visage Insta, à savoir le nez un peu retroussé, les yeux en amande, la bouche plus pulpeuse.
Des pommettes...
Exactement, plus saillantes, le corps en 8 un peu véhiculé
pour
par...
Pour les femmes, hein, parce que pour les hommes, c'est plutôt le corps en V, avec des épaules larges, des abdos en tablette de chocolat.
Tout à fait.
Un torse imberbe, c'est plutôt la norme quand on va sur les réseaux sociaux des Jean-François Madieu.
Oui, je voulais ajouter que par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur la construction sociale de la beauté, c'est-à-dire c'est les standards qui seraient finalement construits purement socialement, c'est pas seulement ça. N'oublions pas qu'il y a des dimensions. Tout à l'heure, on faisait référence par exemple aux hanches, au rapport taille-hanche ou à la poitrine. Mais en fait, où vous venez de parler de la carrure des hommes, leur force physique. En fait, là, il s'agit attention, pas juste d'un construit social. C'est extrêmement profond. Beaucoup l'analysent comme la recherche de l'homme protecteur et fort en bonne santé et d'une femme qui va reproduire, qui a des capacités de reproduction. Et donc ça, c'est et qui va être désirable physiquement. Physiquement parlant, on est au-delà du construit social et il y a ces dimensions qu'il ne faut pas négliger parce qu'il y a une dimension très sexuelle, finalement très ancestrale et primitive, qui reste présente aujourd'hui. Hein, donc il ne faut pas oublier ce point aussi.
Kaline Majdalani?
Oui, bien sûr, il est indéniable que notre évolution de l'espèce humaine maintient certains standards importants pour notre survie et pour la perpétuité de l'espèce, même si aujourd'hui elle n'est pas menacée. Cependant, je tiens quand même à préciser que ces modèles-là évoluent aussi, que la production, par exemple la reproduction, n'est peut-être plus un standard nécessaire pour les femmes. Donc les représentations de beauté sont aussi impactées par l'état d'une société et l'évolution de sa façon d'agir et de réfléchir sur la société.
Bonjour Marie-Laure Zonshine.
Bonjour Ali.
À la fois belle et intelligente, rédactrice en chef à Femme Actuelle. Quel est le menu de vos questions toujours pertinentes?
Notre cerveau est-il le premier responsable de ces diktats de la beauté? Et puis on l'a un petit peu évoqué déjà, les hommes eux aussi sont-ils soumis, bon gré mal gré, aux normes de l'apparence physique?
Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Notre psychiatre à la beauté mature et burinée. Quel est le menu de vos choses vues?
Eh bien aujourd'hui je vous raconte l'histoire de la belle Paul. Et je vous explique pourquoi, toutes et tous, ben vous êtes beaux.
France Inter.
À propos, je voulais vous demander.
Grand bien vous fasse.
Comment vous me trouvez physiquement?
Non, il est tard, il faut dormir. Hein, allons.
Ali Rebéi.
Un joli Larsen en studio. Faut-il être beau, belle pour réussir? C'est notre thème ce matin.
Le sourire et les abdos de Luigi Mangione inondent les réseaux sociaux et enflamment les débats télévisés. Certains faisant de lui un héros. Pourtant, ce jeune de 26 ans est suspecté d'avoir froidement abattu la semaine dernière, en plein centre de New York, le patron de United Healthcare, un géant de l'assurance santé. Son arrestation mardi a provoqué une vague de soutien d'ampleur inédite.
Ce beau gosse brillant nommé Luigi, c'est le Robin des Bois qu'on n'avait pas et dont on a besoin.
Il laisse un message puissant qui met en lumière à quel point notre système de santé est épouvantable. C'est un héros de l'histoire.
Une fascination morbide qui embarrasse aussi de nombreux Américains.
Les gens ont de l'empathie pour lui parce qu'ils fantasment sur lui. Mais je pense que rien ne justifie la violence, quelles que soient les circonstances.
Extrait du JT de France 2, le 11 décembre dernier. Luigi Mangione aurait-il été aussi adulé s'il avait eu un physique quelconque et s'il n'avait pas eu ce sourire ravageur et ses abdos en tablette de chocolat? Jean-François Amadieu, une personne considérée comme belle inspire davantage confiance qu'une personne jugée comme laide. C'est le sous-texte de cette affaire Luigi Mangione. Oui, est-ce qu'elle est dotée de qualités morales qu'une personne laide n'aurait pas, a priori?
Alors, la confiance, pas forcément, mais on va être plus tolérant. On va accepter davantage. On va trouver des raisons. Et puis, surtout, ce qui est important dans le cas de Mangione et d'autres, on peut penser à de nombreux tueurs en série aux États-Unis, une fascination va apparaître. Pas juste parce que ce sont des assassins ou des tueurs en série, mais précisément parce que en plus, ils sont séduisants et Mangione recevra énormément de courriers quand il sera en prison et de beaucoup de femmes qui seront amoureuses de lui.
Mais on est d'accord, il n'aurait pas suscité un tel intérêt s'il n'avait pas eu ce visage et ce physique.
Non mais c'est parce que précisément son visage, ses tablettes de chocolat, son physique vont accentuer le phénomène. Mais pour être clair, j'ai peut-être pas été très clair, quand on parle de beauté ou de il faut bien voir que c'est de façon inconsciente une attirance des individus, c'est-à-dire que les autres sont attirés. Donc c'est d'où le terme de séduction. En fait, ils sont, sans s'en rendre compte souvent, mais il y a une attirance, une volonté de se rapprocher, une sorte de fascination. C'est ce qui explique que devant, je sais pas moi, un téléviseur, un compte Instagram ou une influenceuse, etc., les gens vont être scotchés et finalement vont beaucoup prendre de plaisir à apprécier. Avec une sorte de volonté, non pas de se rapprocher, parce qu'ils ne se rapprocheront jamais de la présentatrice du journal télévisé, mais il y a cette sorte de fascination.
Kaline Majdalani, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, vous me disiez hors antenne que dans l'affaire Luigi Mangione, on peut parler d'effet de halo. Expliquez-nous ce qu'est cet effet de halo.
Tout à fait, c'est l'association à une caractéristique, comme la beauté par exemple, on lui associe d'autres caractéristiques. Par exemple, les gens beaux, on a l'impression de manière spontanée ou intuitive qu'ils sont plus intelligents, plus gentils, plus sympathiques, plus altruistes, qu'ils font les choses avec une performance meilleure. Donc, et de manière sans expérience, c'est-à-dire rien que le fait de voir cette caractéristique nous permet de conclure ça. Et ce qui est intéressant concernant la beauté physique, c'est quand même, parce qu'il faut bien préciser, c'est de la beauté physique dont on parle, c'est quand même la première caractéristique qu'on voit chez un individu. Et c'est les premières informations, donc quand on se regarde, vous et moi, ben, on communique très vite et on essaie d'avoir des informations pour pouvoir échanger. Et en effet, les premières impressions peuvent être fortes pour nous permettre d'avancer. Et la beauté a cet avantage de provoquer des émotions chez les individus associées à d'autres caractéristiques, comme on le disait, qui nous permet en tout cas d'être plus favorables dans un premier temps.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Jennifer Padgemi, cette affaire Luigi Mangione?
Alors cette affaire est très courante parce que c'est quelque chose qui arrive régulièrement, notamment sur les réseaux sociaux. Donc vous savez, les mugshots, ce moment où on prend les personnes qui vont en prison en photo. Il y a eu plusieurs cas d'hommes notamment qui ont été pris en photo et qui ont suscité beaucoup d'envie jusqu'à devenir mannequin pour certains. Et c'est vrai que l'histoire de Mangione en fait m'interpelle parce que ce n'est pas que sa beauté, c'est aussi tout le storytelling qui va avec. C'est une personne jeune qui est en bonne santé, qui est valide, qui a fait de bonnes études. Donc il y a aussi toute l'aura qui entoure ce personnage et aussi le geste qu'il a fait et qui répond à une demande entre guillemets globale d'un système qui est en défaillance. Et donc je pense qu'il faut vraiment revenir, enfin moi j'insiste sur cette question des normes, c'est que la beauté n'est pas subjective, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui vont le trouver moins à leur goût, mais il rentre en fait dans les normes attendues d'un jeune homme de 26 ans américain qui a fait des études supérieures. Et donc forcément, ça suscite, notamment chez les internautes, une forme de sympathie.
Et d'identification.
Et d'identification, clairement. Il y a l'idée de se voir en lui, ou en tout cas de se dire qu'on aurait pu être lui. Et donc, forcément, il y a une forme d'empathie.
Jean-François Madieu, dans Le Poids des Apparences, vous mettiez au grand jour un grand tabou de notre société. Les apparences physiques et vestimentaires comptent énormément dans notre vie quotidienne, à l'école, au travail, dans la recherche de l'amour. Évidemment, ce n'est pas nouveau. Depuis l'Antiquité gréco-romaine, l'Égypte ancienne, en passant par la cour de Louis XV, ou jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, où on mettait en avant cet homme politique jeune, réputé beau, etc. La beauté physique compte énormément pour réussir. Belle amie de Maupassant en est un exemple assez éclatant. Mais qu'est-ce qui a changé au cours de ces dernières années, depuis ces 25 dernières années, depuis la parution de votre premier livre sur le sujet? Racontez-nous un peu ce qui a changé. C'est peut-être le poids des réseaux sociaux, évidemment.
Évidemment, vous venez de le dire. On s'en rend pas compte. On croit qu'on a toujours été dans les réseaux sociaux ont toujours existé, et la circulation des images et des photos sur Internet. Mais non, c'est extrêmement récent et simplement ça a pris beaucoup de proportions. Tout à l'heure, vous parliez d'ailleurs d'ouvrages où le rôle des selfies, par exemple, qui a été très important. Mais en fait, quand on compare, en fait, ce qui s'est passé, c'est une multiplication des images de soi. Qui sont dans tous les domaines de la vie sociale, qui vont être très importantes. Si on prend, les rencontres amoureuses, l'emploi, dans tous ces cas-là, les photos et les vidéos de nous sont extrêmement importantes et c'était pas le cas auparavant. Donc, en résumé, il est certain qu'il y a eu une accentuation de l'impact de notre physique, de cette manière. Quand vous regardez le temps passé, bien sûr, par les plus jeunes, alors d'ailleurs, après, ce qui pose des problèmes majeurs, psychologiques, pourquoi ? Parce que c'est évidemment les plus jeunes, les adolescents, et on sait très bien, là maintenant, on commence à avoir un peu de recul, parce qu'au début, on n'était pas certain que ces réseaux sociaux avaient cet effet. Vous voyez, il a fallu qu'on ait des études, que tout ça soit confirmé, et effectivement, plus vous êtes actifs sur les réseaux, là maintenant on commence à avoir pas mal d'études, plus ça va avoir des effets psychiques, mais plus finalement c'est porteur de beaucoup de conséquences, hein. Donc faut pas le maintenant, quand même tout le monde en a pris la mesure dans différents domaines, mais là sur la beauté c'est absolument certain. C'est pour ça qu'on peut vraiment, alors j'ai oublié de dire, et je pense qu'on y reviendra, ce qui est intéressant dans la période récente, et beaucoup de gens observent ça, c'est qu'il y a eu des contre-feux qui ont commencé à être allumés On a commencé à, enfin, concrètement, les mouvements body positive, tout ce qui a correspondu à des prises de parole, de stars, etc.
C'est-à-dire, au fond. Rappelez ce qu'est le body positive.
Oui, bah, c'est le fait que, à un moment donné, tout un courant dans lequel on dit, bah, il faut assumer c'est ce qu'on est, son âge, son corps, son surpoids, etc. Et donc, et même d'une certaine manière, non seulement l'assumer, mais le revendiquer, le magnifier, etc. Voilà.
Jennifer Padjemi.
Oui, par rapport à ce que vous dites, je pense que les réseaux sociaux, enfin j'en suis même sûre, ont joué un rôle très important. Il y a 25 ans, j'avais 10 ans, donc c'était très très différent. Et je pense qu'on grandissait dans un monde où le seul rapport qu'on avait aux injonctions à la beauté, c'était dans les magazines, notamment féminins, avec l'idée de stars auxquelles on voulait ressembler, les nombreux régimes qu'on nous proposait, etc. Mais il y avait quelque chose de potentiellement distancié parce que il faut faire l'acte d'acheter un magazine. Aujourd'hui, même quand on ne le décide pas, ça vient à nous. Et je pense que c'est l'un des changements les plus significatifs de l'époque. Et puis surtout, c'est pour ça que les questions néolibérales et capitalistes sont importantes, c'est que aujourd'hui, on va tout faire pour accéder à une image qui n'est pas forcément la nôtre. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter des produits, on va investir en nous. Sauf que cet investissement, parfois, est vain parce qu'on comprend que même quand on arrive au maximum de ce qu'on peut changer de notre physique, ça ne fonctionne pas. Et donc c'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur les questions de normes parce que j'aurais beau tout faire, à un moment donné, si j'ai les cheveux crépus, j'ai les cheveux crépus. J'aurais beau faire les régimes du monde entier, si je ne perds pas de poids, je serai toujours considérée comme grosse, handicapée, etc., etc. Et donc, en fait, on voit aujourd'hui que la promesse qui nous est proposée ne fonctionne pas. Et cette promesse-là est véhiculée à travers les réseaux sociaux, à travers les influenceurs et à travers les stars qui sont beaucoup plus proches de nous. Et donc, il y a cette dimension aussi parasociale, donc l'idée de penser tout connaître de la vie de quelqu'un et d'avoir accès à sa vie. Et donc, de penser qu'on pourra avoir cette même vie si on lui ressemble. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu tout ce phénomène des Kardashians, des influenceurs, notamment dans les années 2010, qui s'est confirmé fin 2010, notamment avec les confinements qui ont vraiment accéléré un processus. Et donc, c'est là où on en est aujourd'hui, c'est que fait-on pour les promesses vaines?
Kaline Majdalani.
Alors, il y a plusieurs choses intéressantes qui ont été dites sur lesquelles je vais revenir rapidement. C'est vrai que le siècle moderne, où vraiment l'image règne en diva absolue, on a de nouvelles façons de communiquer sur notre corps, sur notre identité, et on est passé en quelque sorte à un langage beaucoup plus visuel et de mise en scène de son corps pour dire ce qu'il en est de soi, pour partager au quotidien et pour interagir. Alors, ce qui est différent et majoritairement, c'est l'exposition du matin au soir, on est bombardé, où qu'on soit dans la rue, qu'on soit dans les métros, ou plus particulièrement sur les réseaux sociaux, par des images de beauté qui nous influencent et par lesquelles on est imbibé dans la construction de normes ou de référentiels auxquels on a besoin de s'identifier. Alors bien sûr, le siècle moderne, avec notamment précipité bien sûr par le Covid, nous a exposé de plus en plus à notre image. Vous voyez là, on fait une émission radio, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un retour sur notre image. Avec le Covid et le mode visio, que ce soit professionnel ou personnel pour interagir, nous avions un retour sur notre image qui nous exposait plus particulièrement. Donc on se regardait plus, et les études montrent indéniablement sur la population générale que plus on se regarde, plus on trouve des défauts et moins on se trouve séduisant.
Et d'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher, quand on envoie une photo, de la retoucher et d'y apposer un filtre.
Exactement, et c'est encore plus vrai chez les jeunes, juste qui, eux, ont besoin de modèles d'identification, qui ont toujours eu besoin de modèles d'identification, les stars et tout, sauf qu'aujourd'hui, nous avons ça au quotidien, en rapport étroit avec les influenceurs, qui communiquent sur la manière mononormée du modèle auquel il faut s'identifier. Et c'est ça qui crée l'insatisfaction et qui pousse les jeunes à publier des photos d'eux-mêmes.
Et c'est un cercle vicieux qui renforce cette tyrannie, ce culte de la beauté, ce diktat. Question de Marie-Laure Zonshine, de Femmes Actuelles.
Oui, Kaline Madjani, quand même, est-ce que on peut considérer que les femmes, parce qu'en fait on parle de la beauté, mais on fait référence aux femmes, ne nous mentons pas. Est-ce que les hommes aujourd'hui ont conscience d'être, ou pas d'ailleurs, victimes de cette forme de tyrannie de la beauté? Est-ce qu'eux-mêmes travaillent là-dessus? Je pensais notamment à un forum que j'ai vu en préparant cette émission qui s'appelle le Looks Maxing, ce qui veut dire maximiser la beauté. Et là, ce sont des conseils destinés aux hommes concernant la carrure de leur mâchoire, leur chevelure, leur musculature. Eux-mêmes, comment le vivent-ils aujourd'hui pour paraître au mieux dans la société, notamment au niveau professionnel, par exemple?
C'est très intéressant parce qu'en effet, on parle des femmes et aujourd'hui, on a des chiffres très clairs sur le fait que les femmes sont plus impactées. Parce que c'est vrai que les femmes ont toujours été dans la société. Les hommes allaient à la guerre, donc ils ne se sont pas préoccupés vraiment de leur physique et leur apparence. Depuis qu'ils sont beaucoup plus, qu'ils suivent le chemin féminin et qu'ils ont intégré la société, ils sont de plus en plus, j'ai envie de dire, soumis aux mêmes préoccupations. Et malheureusement, messieurs, il ne faut pas suivre le même chemin, mais tirer certaines leçons, de tomber dans les mêmes écueils concernant la beauté et son rôle dans notre identité. Et en effet, on note de plus en plus dans les consultations de médecine esthétique la présence de plus en plus masculine et cette mâchoire qui nous vient de l'Amérique latine où on veut être associé à une virilité plus importante, une jeunesse, etc.
Il est 10h40, il est très viril, buriné, notre ami Christophe André et ses choses vues.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Ah, c'est cool d'être beau. On est content de se regarder dans la glace le matin. On se voit accorder plus facilement des augmentations de salaire ou donner plus souvent les meilleures places au restaurant. Bon, il y a aussi quelques inconvénients, comme nous le montre l'histoire de la belle Paul. Vous ne la connaissez pas?
Non.
Alors, je vous la raconte. Il y avait à Toulouse, au XVIe siècle, une jeune femme tellement belle que François Ier, lors de son passage dans la ville, tomba sous son charme. C'est lui d'ailleurs qui lui donna ce nom de légende, la belle Paul. Elle était si belle que le collège des Capitouls, les consuls et les gouverneurs de la ville, lui demandaient de paraître à son balcon deux fois par semaine pour que les habitants puissent profiter de sa beauté. Flatteur, mais un peu contraignant. Hein. C'était un premier inconvénient. Il n'y a pas que ça. On a complètement oublié qu'elle était aussi intelligente, poète, mécène, réunissant chez elle les artistes de la ville et les soutenant. C'est un deuxième inconvénient. Quand on est beau, ça peut faire oublier nos autres qualités. Et ce n'est pas fini, ces inconvénients de la beauté. On connaît la formule célèbre de Paul Valéry. Le beau, c'est ce qui désespère. Pourquoi le beau nous désespérerait-il? Peut-être parce que la beauté des autres nous fait parfois nous sentir laid. Peut-être parce qu'elle nous semble inaccessible. Parce que, comme l'écrit un peu plus loin dans son texte le même Paul Valéry, elle agit sur nous comme charme et comme glaive. Elle nous envoûte, elle nous blesse. Peut-être parce qu'on se sent alors devant la beauté, comme Quasimodo devant Esmeralda.
C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds.
Ah là 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 là, c'est trop beau, c'est trop beau. Quand la beauté nous fait souffrir, c'est qu'on s'y prend mal avec elle. C'est parce qu'on se sent laid à côté d'elle, et on se sent laid parce qu'on ne sait pas qu'on est beau. Oui, les gens sont beaux, et ils ne le savent pas. J'ai parfois ce sentiment, les jours où je suis en forme, où je suis en paix, où j'aime la vie, le monde, mes semblables, les jours où je m'aime, moi aussi. Alors, je prends le temps de regarder les humains que je croise, dans le métro, dans la rue, dans les couloirs de France Inter. Et je suis ému. Et je ne vois ces jours-là que des gens beaux et qui ne le savent pas. Des gens qui pourraient être encore plus beaux s'ils relevaient la tête, s'ils ouvraient leur visage, s'ils laissaient leur regard s'étonner et se réjouir de traverser le miracle de la vie. Je ne suis pas impressionné par les gens qui se savent beaux, qui le savourent, qui l'affichent, le travaillent, regardent si les autres ont remarqué leur prestance et leur beauté. Aucun intérêt. Cette beauté qui se la pète ne fait de bien à personne. Je ne suis impressionné et ému que par la grâce, que par la beauté qui s'oublie, qui s'en fout d'être belle. Cette beauté-là, elle embellit et elle adoucit le monde. Pensez-y, les amis, vous êtes belle et vous êtes beau, bien plus que vous ne le croyez. À chaque fois que vous êtes heureux, bienveillant, tranquille, généreux, vous êtes dans la grâce qui vous donne la beauté.
Les choses vues, les belles choses vues de Christophe André à retrouver sur l'appli Radio France. Un mot peut-être, Caline Majdalani?
Moi, je suis subjuguée par les mots de Christophe et en effet, je suis totalement d'accord. On ne l'a pas assez dit. L'apparence physique, c'est une partie de la beauté. C'est une composante, si vous voulez, comme quand vous faites une recette d'un gâteau, vous avez une composante principale et indéniablement. Par contre, c'est pas la seule, il y a d'autres composantes.
La beauté morale.
Non seulement la beauté morale, mais toute notre histoire, nos rêves, notre personnalité, notre tempérament, nos blessures vont venir interagir avec cette dimension esthétique pour donner au monde un mélange presque magique de une façon d'être non statique, mais vraiment de notre beauté en interaction dans l'espace et dans le temps.
Jean-François Madieu.
Oui, mais ce que disait Christophe très bien il y a un instant, c'est qu'attention, vos qualités personnelles vont agir de telle sorte que les autres vous trouvent beau au sens physique du terme. Nous savons très bien tout ça. Donc, ça rejaillit sur la perception de votre beauté au sens classique du terme. Vraiment, on parle de la beauté physique. D'un seul coup, vous êtes devenu une belle personne parce que vous aviez des qualités. D'ailleurs, ça se voit, je vais prendre un exemple simple. Toutes les études nous confirment que le sourire, ça compte beaucoup. Mais en effet, si vous êtes heureux, si tout se passe bien, ce matin, vous êtes levé de bonne humeur et vous êtes heureux, vous souriez, ça va transparaître. Mais effectivement, ça transparaît et ça a des effets qu'on connaît très très bien sur la perception de la beauté. Donc, en effet, je voulais juste ajouter qu'il y a une étude internationale récente, d'ailleurs un sondage sur beaucoup de pays, et les Français ne sont pas ceux qui considèrent le plus toutes les qualités. Alors c'est intéressant parce qu'il y en a plein, on pourrait avoir des tas de traits de personnalité, faire des tas de choses extraordinaires, et génèrent de la beauté. C'est pas en France que les gens le pensent le plus, ce qui est quand même là un peu attristant. Au fond, c'est. Mais effectivement, merci.
Grand bien vous fasse.
C'est toujours pareil, hein, ça quand on est pas une grande connasse à mes 75. Avec des seins comme des obus, alors on est rien, on est que moche.
Sur France Inter.
Notre question ce matin, faut-il être beau ou belle pour réussir dans la vie professionnelle? Est-ce que ça commence dès les bancs de l'école? Jean-François Madieu, je rappelle que vous avez publié La Société du Paraître. Monique qui nous écrit, une amie médecin voyant pour la première fois ma fille de 2 ans, qui était très jolie, a simplement dit, elle sera bien acceptée. Et cela m'avait beaucoup frappé. Et cela s'est avéré exact. Qu'est-ce qu'on sait sur le regard des professeurs, des professeurs des écoles, des professeurs dans le secondaire, sur ces élèves jugés beaux par une majorité de personnes? Est-ce qu'elles réussissent mieux? Et est-ce qu'elles sont considérées comme plus aimables? Est-ce qu'elles sont plus populaires à l'école, au collège, au lycée?
Oui, alors plusieurs choses. D'une part, c'est le regard des enseignants, effectivement, qui est plus favorable. Donc on va si l'enfant se comporte mal, est indiscipliné, on va davantage le tolérer, il sera moins puni. Et puis surtout, on va penser qu'il a un potentiel. Alors d'ailleurs, ça se vérifiera parce qu'effectivement, c'est de la prédiction créatrice. Mais comme effectivement, la beauté sera un avantage de façon générale. Effectivement, il y a ce biais. Alors il est connu puisque les travaux fondateurs finalement nord-américains des années 70 avaient déjà montré ce phénomène. Mais je voudrais ajouter qu'à 2 ans, c'est comme ça, à l'école, mais dès la maternité, car que chacun réfléchisse aux commentaires sur le nourrisson, l'enfant qui vient de naître, c'est bien sûr sur comme il est beau, éventuellement il ressemble aux parents, pour être sympathique, mais naturellement, il est mignon, il est beau. Qu'est-ce que vous faites d'autre comme commentaire? On s'est aussi aperçu que les mères s'occupent davantage des enfants mignons. et vont mettre la ceinture sur le caddie de supermarché, etc. Donc en fait, c'est une attention et une bienveillance à l'égard de l'enfant mignon.
Et est-ce qu'un homme jugé beau, une femme jugée belle, de façon unanime, majoritaire, est-ce que ces personnes réussissent mieux professionnellement que les autres ?
Oui, alors ça c'est le sujet... très très bien établi. Vous regardez en France, le défenseur des droits, faut quand même rappeler que l'apparence c'est le deuxième motif de discrimination à l'embauche, donc c'est très important. Donc accéder à un emploi, aujourd'hui, je sais pas si vous êtes une femme, vous avez 50 ans et vous êtes en situation d'obésité, sur le marché du travail ça va être compliqué dans beaucoup de cas. Donc ça se répercute sur les salaires. Bien sûr, sur les carrières.
Convergent.
Oui, il y a eu une convergence absolument incontestable, de toutes les études convergent. Ou en France, par exemple, l'association de la taille en centimètres des hommes et de leur carrière, de leur salaire, etc.
Concrètement, les hommes.
Un avantage des hommes grands par rapport aux plus petits. Voilà. Donc, c'est en moyenne.
Mieux professionnellement.
C'est ça. En moyenne, c'est un avantage. Après, vous avez évidemment l'indice de masse corporelle. Je viens de parler de l'obésité, par exemple, ou du surpoids, et les liens que ça a avec les salaires, vos carrières. Donc, tout ça est très, très facile à mesurer. Donc, bien sûr, ça a été fait. C'est aujourd'hui pas contestable. Il y a un économiste américain très connu qui avait écrit un bouquin qui s'appelait La beauté paye, et il l'avait mesuré déjà il y a pas mal d'années.
Et donc, tout cela crée de la discrimination.
Et énormément.
En creux.
Oui, bien sûr. Et depuis tout à l'heure, on aborde un sujet qui est de mieux en mieux connu, mais c'était pas le cas il y a quelques années, c'est le fait que ces fameuses discriminations, ou ces mises à l'écart, etc., ou les discriminations, eh bien, elles ont des effets sur les individus, des effets psychologiques. Et ça, c'était moins étudié avant. Au fond, il y avait des discriminations, et puis il y avait le domaine du psychologue par ailleurs, ou du psychiatre. Et là, maintenant, on s'aperçoit des effets de ce phénomène de mise à l'écart, de celui qui est devenu trop vieux ou senior, de celui qui est trop gros, etc.
Jennifer Padjemi, je rappelle que vous êtes l'autrice de Selfie, comment le capitalisme contrôle nos corps.
Oui, je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le type de beauté aussi qui est valorisé. C'est qu'on sait que les femmes belles, je vais rester sur les femmes pour ce point précis, les femmes belles auront beaucoup plus d'avantages sur la manière dont on va les traiter dans la rue. Il y a plein d'exemples de personnes qui relèvent que quand elles sont apprêtées ou pas, on les traite différemment au restaurant, dans les services publics. Il y a aussi l'idée de gagner plus quand on est considéré comme belle. Mais c'est vrai qu'on est en France, et en France, la beauté dite naturelle est quand même plus valorisée que pour des femmes qui vont être très apprêtées dans leur maquillage, leur manière de s'habiller, leur confiance en elles. Et c'est vrai que ça, c'est pas forcément un avantage, parce que parfois, cette beauté-là peut faire peur, peut être associé à de la vanité. Et je pense que c'est important de différencier le type de beauté qu'on va associer à la réussite, et que souvent, même dès le plus jeune âge, on va dire aux femmes, voilà, pour être belle, il faut se tenir comme ça, il faut parler comme ça. On le disait tout à l'heure, les mots de grâce, de charme reviennent beaucoup. Et donc, on voit bien qu'être une femme belle avec des efforts n'est pas du tout valorisé.
Et Gilles qui nous écrit, de petite taille, 1m58 pour un homme, c'est pas facile, j'ai 73 ans, et c'est toujours les mêmes remarques. Et Kaline Majdalani, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, quand on ne correspond pas au canon en vigueur, quand on pense ne pas y correspondre, son estime de soi peut en prendre un sacré coup. Une chercheuse de l'université Yale, Marianne Lafrance, a démontré l'existence d'un malaise psychologique quand on ne maîtrise plus son apparence physique, en particulier sa coiffure. Le lien entre beauté physique et estime de soi est très fort.
Le lien entre beauté physique et estime de soi est indéniablement très très important. C'est pour ça qu'il est de la responsabilité collective, j'ai envie de dire rapidement, de pouvoir travailler sur ces différentes dimensions. C'est vrai qu'être beau dans certains domaines et dans certains métiers est beaucoup plus important que d'autres, mais dans certains autres secteurs professionnels et de la vie de tous les jours, il serait intéressant de pouvoir redonner une place qui est un peu plus modeste à cette beauté, qui elle interagit. Et j'aimerais bien rajouter aussi un autre petit point rapidement, c'est de dire que c'est pas seulement la beauté physique en tant que telle, c'est aussi ces personnes qui sont perçues beaux, sur lesquelles on porte un regard positif qui va influencer la manière dont elles vont grandir et estimer leur valeur. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'en diminuant l'importance, et non pas en la réduisant à zéro, bien sûr qu'il est important d'être beau et d'améliorer son physique, mais en apportant juste plus de modestie et une place un peu plus humble à chaque dimension de notre identité, qu'on peut se développer plus positivement, être moins impacté dans son schéma corporel et dans son estime et dans sa réalisation des projets de sa vie.
Marie-Laure Zonstein, de Femmes Actuelles.
Oui, un point rapidement, Jean-François Madieu, sur un des leviers pour lutter contre la discrimination à l'embauche, il est presque daté maintenant, c'était d'avoir des CV sans photo, tout simplement, et de pouvoir donner la chance à tout un chacun pour avoir une interaction, rencontrer le recruteur. Et aujourd'hui, hélas, on peut tout à fait avoir des CV sans photo, mais rien n'empêche le recruteur d'aller chercher sur Internet une photo du candidat qu'il trouvera très simplement.
Oui, bien sûr. C'est sur cet exemple qu'on constate à quel point, en France, on a un certain retard. Aux États-Unis, vous savez que depuis très très longtemps, en Grande-Bretagne aussi, mais on met jamais une photo. Au départ, c'était pour éviter que les candidats écartent les candidats de couleur de peau noire. Mais il est évident qu'on pourrait tout à fait faire la même chose. Et ici, ce sont les grandes entreprises qui devraient vraiment donner l'exemple. Elles ne veulent pas le faire, parce que les DRH et les recruteurs veulent avoir des photos pour choisir les candidats. Mais ils devraient normalement dire, nous ne voulons plus que vous adressiez des CV avec photos, nous ne voulons pas le faire. Alors certes, ils pourront toujours aller sur Internet, regarder les photos, tant qu'on n'aura pas anonymé complètement les CV, mais quand même, qu'on puisse continuer à vouloir utiliser les photos quand on est recruteur et assumer de les utiliser, c'est quand même assez surréaliste.
Jennifer Padjemi, un mot de conclusion ?
Oui, le mot de conclusion confirme ce qui se dit autour de la table. Je pense qu'on devrait même s'écarter des termes de beau, belle, enfin revenir vers des choses beaucoup plus humaines et valoriser les gens autrement. Et comme on le disait tout à l'heure, ça commence dès le berceau, dès même la grossesse. On pourrait penser à autre chose de son enfant qui pourrait faire peut-être changer le monde, faire plein d'autres choses qui ne sont pas forcément liées à sa beauté. Donc ça change aussi dans notre manière de parler aux gens, de les complimenter. On peut les valoriser autrement. Et je pense que c'est important que collectivement, que ce soit dans les milieux professionnels, que ce soit dans le journalisme, dans l'écriture, même dans l'audiovisuel, qu'on arrive en fait à se décentrer aussi de ce regard.
Merci à toutes et à tous. Merci à Kaline Majdalani. Traiter la dysmorphophobie, c'est publié chez Dunod. Faudra revenir sur cette question. Merci Jean-François Madieu. La Société du Paraître, c'est disponible en poche chez Odile Jacob. Merci Jennifer Padjemi. Selfie, c'est publié chez Point. Un mot juste, Marie-Laure Zonstein, très important.
Oui, dans le Femmes Actuelles qui paraît cette semaine, nous faisons une association avec l'Enfant Bleu qui vient en aide aux enfants victimes de maltraitance. Ça concerne un enfant chaque semaine qui meurt sous le coup de ses parents. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, dont 77% au sein de la famille. Nous passons par le biais d'une BD, par notre illustratrice Sophie Ruffieux, pour mettre en lumière le cas d'une petite fille qui semble être victime de maltraitance, et comment la famille de son ami va pouvoir s'interroger, poser des questions, et en arriver au point essentiel qui est de signaler. Il faut garder la possibilité de signaler, ne pas fermer les yeux et ne pas garder le silence face à une situation de maltraitance face aux enfants.
Dans le Femmes Actuelles de cette semaine.
Grand Bien Vous Fasse, un podcast France Inter.